RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ravi d'être avec vous, soyez les bienvenus dans l'After. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. C'est parti pour 2 heures d'After, 2 heures de bonheur. Voici le sommaire de cet After qui arrive à l'heure. La suite de la 9e journée de Ligue 1, les affiches de cette soirée, pas mal de matchs nuls, pas mal de cartons, pas mal de pénalty également ce soir. Les 3 points de Ludovic Obraniak et d'Ali Benarbia. Et puis on ira également à l'étranger. Mourinho a sauvé sa peau en Angleterre. On y reviendra en détail tout à l'heure avec Julien Laurence à partir de 23h20. Et puis 20 minutes plus tard, Fred Hermel nous rejoindra car c'est la crise au Real Madrid. 4 matchs que le Real Madrid ne s'impose pas. 4 matchs que le Real Madrid ne marque pas. On sera avec Fredo dans quelques instants. Avec nous ce soir... C'est bientôt son anniversaire. Ali Benarbia, bonsoir Ali.
Salut Nico.
Ça va Ali?
Très bien.
Ouais, tout roule? Oui.
Encore jeune.
Ouais. Ali aussi, il est encore jeune et pourtant il vient d'annoncer sa retraite. T'as suivi ça ou pas? Gros buzz hein, sur Twitter, les réseaux sociaux. Ludovic Obraniak, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut Nico.
Ça va Ludo?
Ouais, ça va.
Je vous donne quelques résultats les gars également. Sachez qu'en Ligue 2, 10e journée de Ligue 2, Lens s'est imposé 2-1 face à Auxerre. Rien ne va plus hein, pour ton ex. Hein. Décidément, depuis que t'es parti, elle s'en remet pas Ludo.
Ouais, ça marchait pas quand j'y étais non plus.
Ah ouais. Bon ok, alors essayez du moins. Lens qui est leader en attendant le Sochaux-Metz qui se jouera lundi, Première Ligue. Manchester United s'est imposé 3-2 face à Newcastle. Victoire 1-0 d'Alaves face au Real Madrid. On y reviendra tout à l'heure avec Fred Hermel. Schalke s'est imposé 2-0 à Düsseldorf en Allemagne. Victoire de Dortmund 4-3 face à Augsbourg. Match de taré là également. 0-0 entre le Hertha qui était deuxième au coup d'envoi de cette journée face à Mayence. Match de taré également entre le Bayern et Gladbach. Le Bayern qui a perdu 3-0 à domicile face à Gladbach. Pléa marqué notamment hein, pour Mönchengladbach. Et Dortmund est leader. On y reviendra d'ailleurs notamment demain hein, dans l'after avec David Lortolari. La Juve s'est imposée 2-0 face à l'Udinese. Mandzukic et Cristiano Ronaldo ont marqué. Et puis tiens, il y a également du rugby ce soir. 7e journée de top 14, match entre Toulouse et Agen. Wilfried Templier est à Rennes de Vallon. Ça va Wilfried?
Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Comment il va?
Ça va, sous la pluie. Arrête. Des rideaux de pluie et Rennes de Vallon. Donc match voilà techniquement difficile. Le stade Toulouse amène 10-0 depuis la mi-temps. On joue la 57e minute. Une pénalité de Holmes, un essai de Bézi, une transformation de ce même Zach Holmes pour le stade Toulousain. Mais les Agenais en mal en point au classement, bah, n'ont pas dit dans leur dernier mot et depuis plusieurs minutes pilonnent la ligne toulousaine. Voilà, ça nivelle un peu les valeurs avec la boue sur le terrain, la pluie aussi qui tombe et le ballon glissant. Et les Toulousains vont pouvoir se dégager à l'instant. Ils ont eu un moment assez chaud. Et voilà, on en reste là pour le moment. 57e minute de jeu, 10 pour Toulouse, 0 pour Agen.
Tiens, autre résultat, merci Wilfried, hein, de la soirée. Sachez que le Arcachon de Steve Savidan qui nous écoute, qui est sur la route, qui vient nous envoyer un petit message, s'est imposé 2-0 cet après-midi. Voilà. On l'embrasse Steve, sois présent sur la route, hein, bien entendu. Messieurs, on va commencer par le plus important et le plus important, bah, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Ali, on commence par tes 3 points, s'il te plaît.
Premier point, le feuilleton lillois, un stade plein, des actions offensives, une victoire face à une équipe Saint-Etienne, soi-disant, qui était en pleine forme. Ça confirme et ça me plaît beaucoup. Je ne les mets pas parmi les 4 premiers, mais ça me plaît le renouveau de Lille. Deuxième point, on retourne en Angleterre, Mourinho, Manchester United, 95e, 96e, tout tourne en sa faveur pour pas qu'il sorte de ce club-là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Troisième point, contraire, on l'avait dit, Madrid a des problèmes, a des soucis, changement d'entraîneur, sa star qui s'en va. Fred n'était pas d'accord, c'est mal parti.
Il sera avec nous tout à l'heure, hein, Fred Hermel. Et moi, je suis bon parce que je vous ai donné les résultats à l'étranger, la Ligue 2 et tout. J'ai pas donné la Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de ce soir. Quand même, cet après-midi même, d'ailleurs, Lille s'est imposé 3-1 face à Saint-Etienne. Pas de but entre Nîmes et Reims. Amiens a battu Dijon 1-0. 2-2 entre Angers et Strasbourg. Et un partout entre Guingamp et Montpellier. Match qui s'est longtemps joué à 10 contre 10, d'ailleurs. Le PSG toujours leader qui jouera demain à 21h face à l'Olympique Lyonnais. À la deuxième place. Et quoi qu'il arrive, Lille, eh bien, sera deuxième à l'issue de cette 9e journée. On retrouve le LOSC avec 19 points. Ils ont 3 points d'avance sur Montpellier qui compte 16 points. À la quatrième place, on a Saint-Etienne avec 15 points. On a cinquième Lyon avec 14 points. Marseille sixième avec 13 points. Toulouse également compte 13 points. Strasbourg qui monte à la huitième place pour l'instant avec 12 points. Angers, Bordeaux et Nice comptent 11 points. Caen, Amiens, Nîmes, Dijon, Reims, tout ça compte 10 points. Avec 8 points et à la 17e place, on a Rennes qui jouera face à Monaco qui est juste derrière, 2 points derrière. Avant-dernier, Nantes avec 6 points. Et dernier, on a toujours Guingamp qui compte 5 points. T'es 3 points à toi, en revanche, mon Ludo.
Alors, moi, je voulais, tu l'as annoncé en préambule, mais c'est vrai que dans l'actu, l'arrêt de ma carrière a un peu évincé la mort de Charles Aznavour. Donc, je voulais lui rendre hommage ce soir. Donc, mes points concerneront 3 de ses chansons. J'ai mis Lille, non, je n'ai rien oublié. J'ai mis en 2 sur la soirée de Ligue 1 de ce soir et en regardant le classement, j'ai mis les plaisirs démodés. Parce qu'en regardant le classement, pour une fois, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir certaines équipes sur le devant de la scène et c'est bien de, ça relance un peu l'attraction de notre championnat et j'ai mis en 3, ben, pareil, Manchester United. On ne sait jamais, Mourinho, la Baraka, est-ce que ça va suffire à pouvoir le sauver?
Très simple qu'il y a du travail, là, t'as vu Nico?
Et les boss, hein, ces 3 points.
J'ai eu, bravo.
Pas, il arrive et tout comme ça. Attention.
Ouais, exact.
Je vous donne mes 3 points également ce soir. C'est pas très original. Vous avez déjà quasiment tout dit, les gars. Bah déjà Lille, parce que Lille, voilà, sera deuxième à l'issue de cette journée. C'est un choc qui était très attendu, hein, un choc de haut de classement. On vous attend d'ailleurs, supporters du LOSC et de la SSE, au 32-16 pour y revenir. Victoire 3-1 de Lille. Mourinho, alors qu'il a sauvé sa peau peut-être. Alors il a été annoncé partant par une partie de la presse anglaise. D'autres disaient que quoi qu'il arrive, il resterait de toute façon manager pour l'instant du côté de Manchester United. Et puis le Real, parce que mine de, bah le Real, ils sont en train d'entamer une petite spirale assez négative. 4e match sans victoire pour le Real Madrid. Et on sera donc tout à l'heure et avec Julien Laurence pour évoquer le cas Mourinho et avec Fred Hermel pour le cas du Real Madrid.
Et tu as travaillé ça ou tu m'as copié?
Non, écoute, je pense que de toute façon, je pense que l'important c'est les 3 points, Ali.
Ouais. Et ça, c'est le plus important.
On va commencer à analyser les matchs de ce soir. On va commencer, tiens, par Guingamp-Montpellier. Un partout entre les deux équipes. Delors a marqué le premier pour Montpellier à la 30e. Bélezet égalisé peu après l'heure de jeu. Alors, les Montpellierens, les Guingampais qui se sont très vite retrouvés en infériorité numérique. Exclusion de Thuram à la 7e minute de jeu. Voilà, qui a eu un geste un peu déplacé, faut le dire. Hein. Il a donné un coup à un adversaire alors qu'il avait été l'objet d'une petite poussette dans le dos. Et puis Mollet a été exclu en fin de première période également. Il y avait un coup à jouer pour Montpellier en plus, hein, pour ce match. Ils sont troisième, hein, les Montpellier.
Ce qui est assez bizarre, quand tu sais que Guingamp ne vont pas trop bien, que tu gagnes 1-0 et que ils prennent un carton rouge, Guingamp, c'est une chose, mais c'est leur meilleur joueur, Thuram, dès le début, fait en sorte de terminer, récupérer ses fameux 3 points. Ne fais pas cette erreur-là. Et là, Mollet, sous prétexte qu'il prend un carton jaune, il va applaudir, mais l'arbitre, il attend que ça. L'arbitre, il a dû, pendant la mi-temps, plus ou moins, regarder les images. Il a vu que Thuram, bon, il met un petit coup de, mais on s'en passe de l'agressivité ou de la méchanceté de Thuram. C'est pour se débarrasser un petit peu du mec. Et en plus, il dit rien. L'arbitre, inconsciemment, il se dit, si je peux, qu'on le veuille ou pas, si je peux équilibrer, face à Montpellierin. Et là, je pense qu'ils perdent encore 2 points, les Montpellierens. Et Guingamp, ça leur permet.
Ça fait 8 matchs sans défaite. Alors, Montpellier, ils ont perdu lors de la première journée. Et depuis, alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils font victoire nulle à chaque fois.
Donc là-bas,
ils
avaient. C'est bien.
Voilà, ils alternent à chaque fois.
Ça, c'est très bon.
Alors, ils alternent à chaque fois, les Montpellierens. Ludo.
Non, ben, moi, c'était l'affiche qui devait me tenir en haleine ce soir. Et c'est vrai que ça, le fait que certains, ont vu rouge, ça a un peu gâché la fête. Marcus Thuram, je pense que, le rouge est mérité parce qu'il a un réflexe
réflexe Ludo, parce qu'il y a la VAR.
Enfin, quoi qu'il arrive, il a un mauvais geste.
Qu'elle serve. Voilà, Congré lui met simplement la main dans le dos. Dans la situation dans laquelle tu es en ce moment, tu peux pas te permettre de laisser ton équipe à 10 aussitôt dans le match. Donc voilà, c'est, et puis Florian Mollet pareil, qui aussi, c'est la jeunesse. C'est dommage parce que à Montpellier, il y a avec Mollet et sans Mollet.
C'est plus la même équipe.
Non, c'est pas l'œuf mollet, mais regarde pas comme ça.
Les deux mollets.
Non, je trouve que ce garçon apporte une vraie fraîcheur et une fluidité dans cette équipe. On l'a vu notamment sur le dernier match contre Nîmes, où on en parlait tous les deux, Montpellier, sur le début de saison. On avait vu plein de bonnes choses, mais c'était on restait un peu sur notre faim par rapport au système offensif. Et puis, petit à petit, les joueurs se lâchent, ça commence à mettre des buts. Donc voilà, moi, c'était le match qui devait m'intéresser ce soir. Et au final, les choses se sont un peu tassées.
Pas un très bon niveau non plus.
Tiens, on va accueillir Julien, qui est supporter de Montpellier, justement, et qui nous a appelé au 32-16. Salut, Julien.
Salut à toute l'équipe, bonsoir.
Salut Julien.
Est-ce que t'es un peu frustré toi aussi ce soir, sachant que ton équipe menait, que vous étiez à 11 contre 10 pendant un petit moment quand même?
Bah si on part au début de match, on nous dit tu prends un point à Guingamp qui joue un peu sa tête et qui est mal en point mais qui allait un peu mieux, je me dis bon allez je signe, mais là vu la physionomie, je suis carrément frustré parce que au début du match, Thuram il se fait expulser, donc on se dit bon ça sent bon. Derrière Delors, il marque un joli but. Et puis bizarrement, ben voilà, Mollet bêtement, comme l'a dit Monsieur Obraniak, qui se fait expulser. Puis après, ensuite on se met malheureusement un petit peu comme d'autres matchs à l'extérieur que j'ai pu voir cette saison, on se met un peu anormalement à reculer. Et puis derrière, on a des occasions pour doubler la mise et on le fait pas. Et puis voilà, on prend ce but de Benezé, l'ancien Nîmois, et puis voilà, on est content et on prend un point finalement qui
est pas mal. Toi, tu le vois comme ça, toi, c'est un ancien Nîmois qui a marqué du coup.
Non, c'était le petit clin d'œil, j'avais rien contre Nîmes.
Oui, s'il a habité une semaine à Nîmes.
Ouais, c'est ça. Je crois qu'il
j'habite Marseille, mais bon.
D'autant plus regrettable que tu rates le coche sur.
Bah, avec Abdilla à la fin, un peu avant. Voilà, un peu avant, on rate le coche, on tape sur le poteau, donc c'est vraiment dommage. Mais malheureusement, je le sentais. Quand Montpellier, je les connais par cœur, à chaque fois, si on double pas la mise, on se met en danger, on recule et on prend ce but. Et encore, on aurait pu l'emporter sur la fin avec Skuletic là qui fait quelque chose de pas mal. Et puis voilà quoi. Mais ouais, je suis quand même frustré ce soir parce que ça fait quand même pas mal de matchs où je pense vraiment qu'on pouvait l'emporter. Contre Strasbourg, on prend un but totalement à la fin là par l'attaquant dont j'ai oublié le nom. Ça fait un partout. Et puis là pareil, ça fait 4 points qu'on laisse en vol. Et voilà, bon après
bon, néanmoins du côté de Montpellier, vous pouvez pas bouder votre plaisir. Ce début de saison,
il est très très bon début de saison. Je crois, en tout cas c'est ce qu'a dit les commentateurs là à la télé, qu'on est au niveau comptable pas loin de ce qu'on avait en 2012 quand on a été champion. Donc très très bon début de saison.
Ouais, mais bon, 9 journées, c'est pas mal hein. 4 victoires, 4 nuls, une défaite seulement.
Le problème que ça a cette équipe de Montpellier, au moment où tu as des bons résultats, tu es censé, tu le sais, toi Ludovic, sur le terrain, de te lâcher, de se sentir bien, d'être serein. Et on sait qu'à n'importe quel moment, dès que l'adversaire met un but, je dis pas qu'ils paniquent, mais ils perdent leurs armes, ils se recroquevillent, ils reculent.
Ils se mettent
vraiment dans un gros problème. Donc je comprends pas qu'une équipe qui est dans un positionnement exceptionnel, avec des bons résultats.
Mais tu penses que c'est quoi? C'est des réflexes.
C'est le fond de cette équipe.
Ouais. Bah, d'autant que tu venais de gagner 3-0 dans le derby, ça devait t'amener une confiance totale. Puis, tu mènes 1-0 à 11 contre 10.
Bah, je sais pas, tu lâches les chevaux et tu montres que t'es serein.
Mais bien sûr. Franchement, il y avait vraiment mieux.
Pas autant que ça. Et j'ai pas peur. Mais je me dis, qu'est-ce que ça serait si elle serait dans la situation de Guingamp? Cette équipe-là.
Ouais, c'est loin d'être le cas, cela dit.
Non, le Vendela. Ouais. Mais pour te dire.
Alors, cela dit, là où c'est intéressant aussi, Julien, c'est quand on voit le calendrier de Montpellier à venir. Alors, il y aura Bordeaux, Toulouse, Marseille, Angers, Rennes, Monaco, Lille et le Paris Saint-Germain. Alors, oui, c'est loin. Hein. Là, c'est les 8 prochains matchs de Ligue 1. Mais c'est vrai que finalement, Montpellier, ils sont bien classés parce qu'ils ont bien géré le calendrier qu'ils ont ici et qu'ils ont eu jusqu'ici. Là, il y a des adversaires, on va dire, sur le papier du moins, qui sont peut-être un peu plus compliqués, non, à venir là.
Bah après, moi, ça m'inquiète pas trop dans le sens où Montpellier est une équipe et depuis plusieurs saisons qui a tendance, on va dire, à élever le niveau quand il faut l'élever contre les grosses équipes. Et là, je suis content parce qu'on va dire les équipes où je pense, enfin des équipes comme Guingamp, tout ça, je pense que Montpellier est quand même un ton au-dessus. Mais là, les équipes même à domicile, l'OM et tout ça, même l'OM actuel ou même d'autres équipes, même Bordeaux, me paraissent accessibles. Mais comme disait Ali tout à l'heure, c'est assez bizarre comme réaction quand tu mènes 1-0, que t'es quand même bien, que t'as l'équipe en face qui doute, qui est dans les profondeurs du classement, enfin ils sont derniers dans les toutes profondeurs, et de pas lâcher les chevaux et d'y aller, de reculer, commencer à se poser des questions, et derrière forcément tu prends un but bêtement quoi, tu perds des points bêtement à droite et à gauche, et à la fin de saison, enfin c'est des points que tu peux peut-être regretter pour accrocher une petite place en Coupe d'Europe, ce qui me paraît pas inaccessible, mais bon,
faut pas écarter de la main, d'un revers de la main non plus, la solidité défensive de Montpellier, c'est ce qui leur permet de capitaliser aussi sur le début de championnat.
Donc
le
fait c'est sûr, défensivement, c'est très bon.
C'est une équipe qui s'est voyagée.
La deuxième meilleure défense de Ligue 1, Montpellier.
Donc, pour l'instant, ça te permet d'être dans les quatre premiers. Force est de constater que c'est un remède qui marche.
Tiens, il y a une petite remarque de Mike hein, sur le hashtag RMCLF qui nous dit on retrouve au deuxième et troisième place deux ex-champions de Ligue 1 juste avant la domination totale du PSG version Qatari. Un beau pied de nez, dit-il. C'est vrai que c'est assez rigolo finalement de retrouver et Lille et Montpellier juste derrière le PSG, même s'ils sont loin derrière et que c'est seulement la 9e journée et qu'elle est même pas terminée d'ailleurs. C'est vrai que c'est assez rigolo, c'est un joli petit clin d'œil de la part de Mike.
C'est rafraîchissant.
Bah, si Montpellier pouvait poursuivre ses efforts et rester où ils sont, moi la petite musique de la Ligue des champion à la Mosson, ça ne m'avait pas déplu.
Quand je pense que Loulou est même pas là pour voir ça, il aurait été content.
Eh oui, bah oui, c'est bien triste, c'est sûr, oui, malheureusement. Mais bon.
Merci Julien d'avoir été avec nous en tout cas.
Bah, je vous en prie, à bientôt.
Salut Julien,
salut,
à très bientôt.
Au revoir.
Ciao, ciao. Un petit mot sur Guingamp également, les gars, parce que c'est vrai que Guingamp est dernier toujours de Ligue 1, mais Guingamp, ça fait 3 matchs sans défaite hein, quand même. Hein. Et puis c'est vrai qu'ils ont fait preuve de force mentale quand même ce soir.
Non. Tu sais que quand ça va pas de ton côté, ça va pas. Hein. Ton meilleur joueur qui sort au bout de 6 minutes, tu prends un but de Delors et tu perds 1-0. Je suis à la place d'Antoine Comboré à domicile, je me dis mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça en début de saison? Et là tu t'en sors avec un nul, tu te dis ça va tourner progressivement, mais ça a l'air très dur pour les Guingampais. Il va falloir qu'ils cravachent, qu'ils mettent beaucoup plus d'ingrédients, mais pas en réaction, mais plutôt en action, parce que ce qu'ils ont besoin, c'est dès maintenant d'ouvrir le score pour faire sortir l'adversaire et profiter, eux, des espaces, et non pas toujours courir après le score, parce que c'est usant à la fin.
Ouais. J'aime l'état d'esprit qui est affiché là depuis quelques matchs. On voit qu'il y a certains joueurs qui sont pas à leur niveau depuis le saison. Sur ce match-là, j'ai trouvé encore, il y a certains joueurs, par exemple Lucado, que j'arrive pas à reconnaître au milieu de terrain. Cependant, c'est lui qui fait le travail pour Nicolas Agassé, Benezet sur le but. Nicolas Benezet aussi qui prend ses responsabilités cette année, qui est à la source du retour de Guingamp ce soir. Donc moi j'aime l'état d'esprit, c'est une équipe qui lâche jamais rien à l'image de son entraîneur. Je sais pas si c'est un point mérité, mais en tout cas ça a le mérite de garder Guingamp sur une bonne dynamique.
Ouais, Guingamp qui ira à Caen lors de la prochaine journée. Ensuite, sur un match contre Strasbourg, il y aura Angers en Coupe de la Ligue et ensuite ils iront à Nantes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est là aussi, a priori, c'est un calendrier sur lequel ils pourraient se refaire la cerise. On retourne du côté d'Ernest Vallon, retrouver Wilfried Templier. Toulouse Agen affiche de la 7e journée de Top 14.
Il reste 13 minutes 30 dans ce match et ça n'a pas bougé. Toujours 10-0 pour Toulouse. Un seul essai dans ce match signé Sébastien Bézi. À la 23e, l'événement quand même, c'est le retour d'Antoine Dupont, petite pépite du rugby français, demi de mêlée, pour ceux qui se souviennent, chez vous les footeux, sélectionné avec le 15 de France et victime d'une entorse avec rupture des ligaments croisés au début du mois de février face à l'Irlande au Stade de France. Et bien voilà, il a fait son retour dans les rangs toulousains aujourd'hui après une longue rééducation, et c'est pas mal à un an de la Coupe du Monde de revoir Antoine Dupont sur les terrains de rugby tout simplement. Mais ça n'empêche pas que le Stade toulousain n'arrive pas à faire complètement la différence dans ce match. 10-0, c'est sûr, c'est un petit matelas intéressant, mais c'est pas encore complètement suffisant pour imaginer avoir la gagne jusqu'au bout, d'autant qu'Agen a une pénalité à l'instant qui est lointaine quand même, hein, plus de 50 mètres, qui va être tirée par Hugo Verdu. Ça va être short, ça va être juste en dessous la transversale, c'était assez présomptueux, il était pas si loin.
Ça fait but alors.
Ouais, ça fait but, voilà, ça fait but exactement, mais avec le terrain lourd, le ballon glissant, c'était quand même pas facile, mais il a voulu la tenter. On en reste là, 10-0 pour Toulouse. 12 minutes 30 à jouer dans ce match, 10-0 avec un seul essai.
Merci Wilfried. Tiens, sachez que c'est le temps additionnel entre Empoli et la Roma. 8e journée de Serie A, la Roma qui mène 2-0 et Nzonzi notamment a marqué.
Il va mieux là, Nzonzi. Hein.
Bah, là c'est pas mal, hein. La Roma, ils sont en train de surfer la cerise.
La dernière fois c'est une passe décisive, là c'est un but.
Avant d'évoquer le match nul, hein, le 2-2 entre Angers et Strasbourg, on vous attend d'ailleurs, supporters alsaciens, supporters du SCO au 32-16. On va accueillir Antoine qui est supporter de Guingamp et qui nous a appelé au 32-16 pour revenir sur ce match nul entre Guingamp et Montpellier ce soir. Salut Antoine, c'est pas qu'on boit.
Salut les gars.
Salut Antoine. Salut.
Bon, je vous ai eu la semaine dernière après Angers, on était hyper satisfaits.
Ouais.
Là ce soir, bah, j'ai envie de voir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, parce que quand tu vois le scénario à la demi-heure de jeu avec cette expulsion totalement débile de Thuram et être mené 1-0, on a eu une bonne réaction et au mental, comme à Nîmes, comme à Angers, avec une réorganisation tactique également, parce que 1-0, ça servait pas à grand chose de rester à 5 derrière. Donc on l'a fait sortir Sorbonne, Benezet a marqué, on a tenu le 1 partout, donc écoute, on n'est pas largué au classement. Devant, Dijon n'avance plus. Reims, ça stagne. Amiens a gagné. Mais bon, on va aller à Caen dans 15 jours après la trêve. On aura pas mal d'absents entre les suspendus, les blessés. Et on a Strasbourg encore à domicile derrière, donc l'enchaînement, pour l'instant, il faudra se rapprocher petit à petit des équipes de devant. Mais bon, écoute, ce soir, vu le scénario, le point, moi je le prends avec grand plaisir.
Ouais, finalement, ça fait 3 points de retard hein, seulement sur la 17e place hein, pour Guingamp.
Ouais, alors après, les équipes qui sont devant tout de suite, c'est Nantes, Monaco, Rennes. Ouais, voilà. Moi, j'irai quand même regarder un peu plus haut des équipes comme Reims, Amiens, Dijon, Caen, ouais, tu vois. Si on veut être totalement logique, hein, il faut plus parler en regarder ces équipes-là que Monaco, Rennes et Nantes qui vont forcément se reprendre au bout d'un moment, je pense. Mais bon, écoute, on n'est pas largué. C'est pas Metz l'année dernière. Hein. On est à 5 points. C'est pas beaucoup. C'est même très faible par rapport à ce qu'on espérait. Mais après, il y a les aléas hein, entre, je te dis, beaucoup de blessés, ne serait-ce que Roux, Rodelin. Déjà, quand tu as ces deux attaquants-là qui sont pas là depuis quelques journées, c'est compliqué. Tu perds Thuram encore ce soir, à mon avis, pour au moins 2-3 matchs, hein, vu que c'est un rouge direct avec un joli petit coup. Donc, il va falloir continuer à, bah, comme Boiré va pouvoir faire parler un peu sa hargne et son mental, hein, vu que ça fonctionne plutôt pas mal en ce moment. Ouais. Les joueurs ont l'air d'aller dans son sens et de le suivre et pas de le lâcher, donc ça, c'est très bien. Pour faire plaisir à Ludo, il n'y a plus de banderole ce soir, donc c'est bien aussi. Et on revient un peu dans les habitudes du public guingampais. C'est bien aussi pour tout le monde que ça se calme au stade.
Eh ben merci Antoine en tout cas.
Merci Antoine.
Salut les gars, bonne soirée.
Bonne soirée Antoine, salut, bonne soirée à toi. Dans quelques instants on reviendra sur le 2-2 entre Angers et Strasbourg. La victoire d'Amiens également, 1-0 face à Dijon. Et c'est vrai qu'il le disait Antoine il y a quelques instants, Dijon, ils sont en train de glisser là, ils sont en train de chuter hein, les Dijonais. Ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas gagné les Dijonais. On y revient dans quelques instants avec Ludovic Obraniak et Ali Benarbien et on vous attend au 32-16 et sur l'application Direct Studio pour revenir sur les affiches de cette soirée.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Ludovic Obraniak et la suite de la 9e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de ce samedi. Lille a battu Saint-Etienne 3-1. On y reviendra dans... Eh oh ! C'est des phrases qui veulent dire quelque chose. On y reviendra dans quelques instants sur ce choc du haut de tableau. Un partout entre Guingamp et Montpellier. On vient de l'évoquer il y a quelques instants. 0-0 entre Nîmes et Reims. Angers et Strasbourg, 2 buts partout. On va l'évoquer dans quelques secondes. Et Amiens a battu Dijon 1-0. Lille qui est deuxième au classement de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Montpellier pour l'instant. Saint-Etienne est pour l'instant quatrième. Et puis vous le savez, demain à 21h, il y a le choc entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Lyon qui est à 2 points du podium. Et Marseille est à 3 points. Marseille qui jouera face à Caen. On va évoquer ce match entre Angers et Strasbourg. Angers qui était mené 2-0, doublé de Motiba, voilà, en fin de première période. Les Strasbourgeois qui géraient. Et une fois encore, eh bien, Strasbourg, eh bien, s'est fait égaliser en fin de match, a perdu des points. Capel a marqué le premier but des Angevins à la 58e. Et dans le temps additionnel, c'est Thomas qui a marqué le but de l'égalisation pour Angers. Ça fait beaucoup de points perdus quand même par Strasbourg. Il y avait une petite réaction là sur l'application Direct Studio. C'est Vince, supporter du Racing, qui nous disait, fin de match catastrophique du Racing contre Angers. On subit, on encaisse encore une fois, c'est la troisième fois, un but dans les arrêts de jeu. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même pour Strasbourg hein, depuis le début de saison.
On avait dit plus ou moins que leur problème venait de l'agressivité dans les 20 derniers mètres avec leur remaniement de la défense, et ils se retrouvent avec le même problème. Cette équipe, elle a du cœur, elle se crée des occasions, elle va de l'avant, mais elle n'a pas encore cet équilibre qui fait que, est-ce qu'ils ont les joueurs d'expérience, surtout au niveau du frein moteur devant la défense et en défense, je ne pense pas. Et c'est là que c'est important, recrutement. On le dit souvent, quand tu veux te maintenir, il te faut pratiquement un joueur par ligne qui a une expérience dans la colonne vertébrale. Et j'ai pas la sensation que Strasbourg a ça. Et ces derniers temps, et c'est vrai que c'est pas évident, en défense, ils ont souvent des problèmes parce qu'ils ont peut-être pas ce leader d'expérience qui sait gérer ces moments-là.
C'est vrai que ça fait 13 buts encaissés hein, après 9 matchs par Strasbourg. Alors ce qui est positif, c'est qu'ils ont quand même claqué 16 buts depuis le début de saison aussi. Ils sont assez offensifs quand même, les Strasbourgeois.
C'est ce qui fait que t'es 6e.
Oui.
Ouais.
Enfin, t'aurais dû être 6e si t'avais pas subi les égalisations. Et c'est pour ça que dans les 3 points, j'avais mis les plaisirs démodés, parce que Strasbourg était 6e aussi à ce moment-là. Donc c'était aussi par rapport à ça. Mais cette équipe, elle a... Déjà, il faut constater que l'association... Motiba d'Acosta fonctionne très bien. À chaque fois qu'ils jouent ensemble,
très bon joueur,
ça fonctionne très bien.
Il est étonnant, Motiba. Tu l'as pas connu toi à Lille, justement.
Je l'ai connu quand je suis rentré de Raifa et que je me suis entraîné avec Lille pendant une quinzaine de jours quand Antonetti était là, Frédéric Antonetti. Et c'est vrai que c'était un garçon qui était intéressant dans la générosité, mais brouillon techniquement. Il perdait beaucoup de ballons. Il était brouillon, c'est vraiment le mot adéquat. Il a beaucoup travaillé et sa générosité fait qu'aujourd'hui, cette générosité-là alliée à une technique plus bien meilleure, et ben ce garçon est en train de démontrer. Il a contribué la saison dernière au sauvetage de Lille, il faut pas l'oublier, et grandement d'ailleurs. Mm-hmm. Donc ça, il faut le souligner. Et je vois sur les derniers matchs de Strasbourg, à chaque fois que les deux sont alignés devant, c'est pas souvent, et quand les deux sont ensemble, ça fonctionne plutôt bien du côté de Strasbourg.
Au final, quand on regarde, c'est pas si mal hein, pour Strasbourg. Hein. Une défaite sur les cinq derniers matchs, c'était face à Marseille. Alors en plus, un match assez chaud également. Cette fameuse défaite 3-2. Ils sont pas si mal hein, les Strasbourgeois. Ils ont eu un début de saison un peu poussif. Et là, ça joue pas mal. En plus, moi, je trouve ça. En plus, c'est des matchs qui sont plutôt agréables hein, pour le coup. Hein. C'est peut-être frustrant quand on est supporter du
Avec
Racing.
Avec Strasbourg, mais... il se passe toujours quelque chose.
Exactement. Ouais.
Ah, mais le fameux matelas.
J'aime bien l'oreille.
Tiens, le fameux matelas en début de saison, quand t'as la chance de gagner les matchs, d'ouvrir le score, il te sert pour au moment où tu vas avoir le fameux trou. Et en plus de ça, ça te permet à des joueurs qui viennent d'arriver d'être beaucoup plus sereins, de s'exprimer beaucoup plus, et même au coach de travailler sereinement. Là non, si à chaque fois tu perds 2 points, plus 2 points, au moment où t'as le trou, eh ben ça peut être chaud, et on se souvient la dernière.
Si les mecs ils perdaient pas de points, ils seraient dans les premières places.
Je dis pas le non, ouais. C'est pas ça. C'est que au moment où t'as la chance d'ouvrir le score et de gagner, des fois de gérer un petit peu, ça fait
quand même deux buts d'avance, quoi.
Ça t'aide énormément. Mmh. C'est dommage.
Le problème est au niveau de la défense à 3 pour moi. C'est-à-dire que à chaque fois que Lala et c'est Carole à gauche, il me semble.
Exactement. Ça c'est une bonne recrue aussi d'ailleurs.
C'est très bonne recrue. Il joue l'offensive, tu l'as dit tout à l'heure. Le problème, c'est que voilà, quand tu es mené et qu'il commence à reculer, tu devrais avoir justement Mitrovic avec cette défense à 3 derrière qui devrait contrôler la largeur et la hauteur du terrain. Or, il ne le fait pas. Tu disais qu'il manquait un leader de défense à Strasbourg. Lamine Koné a pas joué ce soir ?
Non.
Je regardais.
Ils ont recruté Lamine Koné aussi, qui est un élément qui devrait justement prendre toute sa splendeur et prendre de l'ampleur du côté de Lameno.
Il est rentré en cours de jeu.
Il a pas trouvé la formule encore.
Ça me paraît surprenant quand même.
On a Kevin, supporter de Strasbourg, qui nous a appelé au 32-16 et qui est donc en direct avec nous dans l'after. Salut Kevin.
Bonsoir messieurs, c'est un grand plaisir de vous entendre.
Bah, c'est un plaisir de t'avoir avec nous Kevin.
Ah bah, moi aussi, je suis cette émission depuis 97, enfin depuis le début, je crois que c'est depuis 2007 j'ai des bêtises, voilà.
Et j'allais dire 97, je pense que t'es un mytho.
Oui, oui, c'est un peu tôt. Non, depuis 2007, je m'y suis mis. Vous savez comment j'habitais à Lyon à l'époque et je galérais tellement sur l'A7 pour rentrer que je mettais la radio et il y avait rien. Et je tombe sur l'émission et là je suis tombé amoureux et j'ai jamais lâché. Le coup de foudre, je dis putain, enfin des gens. Excusez-moi, bon sang, enfin des gens qui parle de foot comme j'avais envie de l'entendre et j'ai jamais décroché. Donc supporter strasbourgeois, donc vous imaginez bien que moi c'est pas le pain noir que j'ai mangé, c'est toute la boulangerie depuis quelques années. Donc là on est heureux d'être là, mais c'est vrai que oui ce soir j'ai l'impression d'avoir perdu 2 points, mais d'un autre côté j'ai l'impression d'avoir gagné 1 point. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais
bah disons qu'un match nul à Angers c'est pas mal, mais quand tu mènes 2-0
ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et ça fait 3-4 fois déjà cette année. Et Ludo l'a super bien dit. On a recruté Mitrovic pour être le leader. Et pour le moment, ça prend pas encore quoi en défense. Et Seltz a fait un super match. Il sort un penalty, il nous sort 2-3 arrêts de derrière les fagots, bien comme il faut. Mais pour le moment, la défense, ça passe pas. C'est pas encore bon. Et bon, on est à notre place. J'ai envie de dire, mais oui, c'est bien, mais j'aurais pas craché dessus.
Ouais. Tu m'étonnes.
En attendant,
petit détour par Ernest Vallon, parce que c'est terminé entre Toulouse et Agen dans cette affiche de la 7e journée du top 14, Wilfried Templier.
Et ça n'a pas bougé en deuxième mi-temps. Le score était de 10-0 pour le Stade Toulousain.
Dis donc.
En première période, il y a eu quelques sifflets, quelques secondes avant, vous venez me voir sur cette fin de match et voilà, ça n'a pas bougé en deuxième mi-temps. Donc une pénalité d'Holmes à la 17e, un essai de Bézi transformé par Holmes à la 23e et c'est tout pour les Toulousains qui, après leur déception de la défaite à domicile face à Castres la semaine dernière, se remettre un tout petit peu la tête à l'endroit. Et donc son 4e ce soir avec cette victoire. Agen reste avant-dernier du top 14. Place à la Coupe d'Europe maintenant pour le Stade Toulousain. Ce sera à Basse samedi à 14h.
Merci beaucoup Wilfried, bon retour à toi. Voilà, victoire donc de Toulouse face à Agen. 10-0, Kevin, excuse-nous, on t'a coupé. Oh, la priorité.
Non,
Kevin frustré ce soir donc.
Ah, Kevin,
frustré.
J'ai juste une question pour toi. Je m'étonne de pas voir, on en discutait juste avant, je m'étonne de pas voir Lamine Koné, justement, qui était un recrutement qui me paraissait judicieux. Je m'étonne de pas le voir dans l'équipe titulaire. T'as une explication à ça?
Oui, il me semble qu'il est venu déjà sur la fin, donc il était pas totalement prêt. Et je crois qu'après, je crois qu'il a joué une fois et il s'était à moitié blessé, donc il était sur le retour en fait.
D'accord. Okay.
Et je crois que Thierry Loret était plutôt content de son trio Martinez, Mitrovic, Cassie, et voulait pas trop le bouger, vu qu'on n'arrête pas de se chercher en défense. Ça avait l'air de marcher. On avait fait clean sheet la dernière fois et c'est tellement rare qu'il n'y a pas touché là. Et là, avec la sortie de Martinez, je pense qu'on n'aurait pas vu Lamine Koné rentrer. Hein. Mais en théorie, on l'a pris pour être à côté de Mitrovic. Donc il est censé prendre la place de Cassie, qui lui n'est pas défenseur et est plutôt un peu un milieu ou latéral, ça dépend. Donc oui, c'est vrai que il met du temps à revenir.
Il y a Jonas Martin qui est aussi en train de prendre de l'ampleur au milieu.
Jonas Martin, c'est, je pense, notre. J'avais été assez déçu l'année dernière, mais là, je pense qu'il est en train de prendre vraiment toute l'ampleur du Jonas Martin que je connaissais à Montpellier. Et c'est un peu dans parmi les supporters strasbourgeois, je pense que c'est le joueur avec Kenny Lala du début de saison.
Le problème, c'est l'équipe de Strasbourg depuis qu'elle est remontée. C'est qu'elle a toujours pas trouvé cet équilibre pendant les rencontres.
Bah, surtout l'assise défensive, ouais. C'est vrai que ça fait deux ans qu'on recherche la bonne défense, en fait. La bonne défense.
On fonce devant.
Est-ce que cette équipe de Strasbourg ne jouera pas tout le temps en Ligue 1 avec cette fameuse folie et ce déséquilibre et qui aura que comme ça qu'elle saura jouer ou elle va
apprendre
progressivement?
Ouais, bah, tu me diras, c'est agréable. Hein, ouais.
Je dis pas le contraire, mais. Faut pas qu'après t'en payes les pots cassés, dans le sens où arrive un moment c'est agréable, c'est une chose, mais ça serait bien d'apprendre et que les bonnes choses on les garde et les mauvaises choses ben on essaie de les gommer. Mais j'ai pas l'impression qu'ils gomment encore les mauvaises choses.
Il faut qu'ils apprennent à gérer leur temps faible. À chaque fois qu'ils ont un temps faible, ils concèdent tout le temps.
Ah non.
Ouais, exactement.
Ça paye cash.
Mais alors c'est vrai. Alors c'est certainement lié au fait d'ailleurs qu'il n'ait pas encore trouvé la bonne formule, Thierry Loret.
Ça fait longtemps.
Mais c'est vrai que quand tu vois le banc de Strasbourg, bah tu dis putain ça a de la gueule. Lienard est pas titulaire. Bon t'as pas ça à dire. Bon, qui a eu du mal à s'imposer dans cette équipe aussi. Nuno Da Costa, il n'est pas tout le temps titulaire. C'est un joueur qui est intéressant, lui aussi, d'ailleurs.
Très, très bon.
Il est vraiment pas mal du tout également. Enfin, il tourne pas mal, en plus.
Il a un meilleur effectif, Thierry Loret, que la saison dernière. Déjà.
Ouais, bah, ils sont renforcés. Tu parlais tout à l'heure de renfort.
Exactement. Tu as l'effectif en quantité. Ça, c'est important.
Bah, t'as deux buteurs. T'as trois créateurs entre Martin, Cornier et
Thomasson.
T'as deux excellents, excellents.
Winger.
Voilà. Des arrières latéraux qui prennent beaucoup le jeu à leur compte, qui montent beaucoup, qui ont une très bonne, Kenny Lala a une très très bonne qualité
très
de centre.
Bon joueur.
C'est à York, hein, qui est chez vous aussi.
York, ouais. Oui, exact, ouais.
Qu'on ne voit plus beaucoup d'ailleurs, mais qui a un profil intéressant aussi dans, justement, dans ces, ouais, ouais dans ces moments-là où tu subis un peu plus, histoire de garder le ballon avec gabarit. Il est plus dans le groupe non plus, c'est aussi dû aux blessures.
Mais moi je joue face à cette équipe de Strasbourg, ben j'aurais toujours la sensation que je peux, que j'ai pas besoin de forcer autant pour trouver la faille, dans le sens où il y a toujours un moment ou un autre que le déséquilibre de la défense te permet de trouver soit la passe, soit le joueur qui va se retrouver en 2 contre 1. C'est un petit peu dommage.
Kevin, vas-y, le mot de la fin pour toi.
Oui, non. Alors pour Ajorc, rapidement, oui, il est sorti parce qu'on est sorti, on a changé de schéma et que c'est vrai que Motiba et Da Costa tournent bien. Après, je vous avoue, oui, si on prenait moins de buts, je pense qu'on parlerait un petit peu plus de Thierry Loret et de son. Il veut faire jouer l'équipe sur différents schémas, en fait.
Tu le fais rentrer les 20 dernières minutes. Tu subis un peu, tu décides de jouer un peu plus long sur le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, parce que tu subis beaucoup trop. Ce garçon-là a la capacité de pouvoir te garder le ballon, de pouvoir te faire remonter le bloc, d'obtenir des fautes. Il pourrait être intéressant dans ce profil-là.
C'est vrai que le coaching là, de ce soir, je l'ai pas trouvé très heureux, mais bon, voilà, on peut pas. Je peux pas dire que je crache sur le Ray parce que je suis plutôt content de sa philosophie de jeu. Ouais, il fait un excellent boulot. Voilà, il aurait une défense qui serait plus solide. On parlerait un petit peu plus de Strasbourg parce qu'il serait plus haut, très certainement. Ouais. Maintenant, c'est vraiment nous le nerf de la guerre, je pense, c'est trouver cette assise parce qu'il faut absolument que l'on arrête de faire caca à bout chaque fois qu'il y a une contre-attaque et qu'on met un temps attends-nous où on n'est pas capable de tenir un score, où on panique, où on ne sait pas tenir la balle. J'ai vu des balles se dégager de façon très molle alors que on avait le temps d'amortir et de repartir calmement, parce qu'en plus on joue au ballon. Alors les joueurs ils sont un peu cramés parce que tactiquement Thierry leur demande de beaucoup courir, mais c'est frustrant parce que juste avant qu'il y ait ce centre, Sissoko fait une tête à moitié ratée qui va pas loin et il y avait personne autour de lui, donc voilà.
Merci Kevin d'avoir été avec nous, ça, en tout cas. Bonne soirée.
Merci, un vrai plaisir.
Ça me plaît ce que je vais dire, Kevin, mais même en tant que Lorrain, je dois dire que je prends du plaisir à regarder le Racing.
Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a plus de
ça me fait toujours plaisir de t'écouter. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de.
Bonne soirée, Kevin. Merci, en tout cas.
Bonne soirée à vous.
Salut, ciao, Kevin. On accueille Valentin. Un mot sur Angers également, supporter du SCO. Valentin, Angers qui donc a fait preuve de mental ce soir, qui a été mené 2-0 à domicile face à Strasbourg et qui a arraché le match nul en toute fin de rencontre. Salut, Valentin.
Ali, Ludovic, Nicolas, bonsoir. Comment allez-vous?
Salut, Valentin.
Ça va et toi? Toi, t'étais au stade d'ailleurs aujourd'hui. Hein.
Ouais, je suis au stade. C'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu mal à la voix. Ça s'entend peut-être un petit peu. J'ai pas mal hurlé sur le dernier but qui nous a fait tous sauter de joie.
Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette équipe d'Angers, qui est pas mal également, hein, belle série, une défaite sur les 6 derniers matchs pour Angers. Il y avait eu un début de saison assez compliqué quand même également pour le SCO. Ça va mieux là aussi, hein.
Oui, tout à fait. Alors, si vous me permettez, moi, je vais résumer un petit peu ce match, un petit peu comme vous, en 3 points. Le premier, tout simplement, une entame de match ratée, complètement. On prend un but au bout de 2 minutes sur un très très beau mouvement d'école de Motiba et d'Acosta, avec un 1-2, un enchaînement 1-2 magnifique. Et après, derrière, on obtient un pénalty où Mangani rate le pénalty. Donc là, un début de match un petit peu frustrant. Après, derrière, on prend un deuxième but à nouveau, juste avant la mi-temps. Là encore, c'est Mangani qui perd le ballon au milieu de terrain. Et après, derrière, ça va très très vite et nous mettent un deuxième but. Et voilà pour le premier point. Mon deuxième point, c'est une deuxième mi-temps en réaction. Parce qu'au deuxième mi-temps, on a fait sortir Mangani, on a fait rentrer Flavien T, et Santa Maria, blessé, a été remplacé par Pajot. Et on a vu tout de suite que l'entrée de Flavien T a apporté quelque chose offensivement, un allant offensif, où on a été beaucoup plus agressif, on a joué également beaucoup plus haut. Et même si on est tombé ce soir sur un très très bon gardien strasbourgeois, dont je ne dirai pas le nom, parce que j'arrive pas à le prononcer, moi, qui a été très très bon, qui a fait de super arrêts. Là, leur gardien ce soir a été très très bon. Et derrière, c'est ça. On a poussé, on a eu beaucoup d'occasions, et je pense que lui les méritait. Et à la fin du match, c'est un peu cette balance win, comme nous on appelle à Angers, qui a fonctionné, qui a marché, parce que jusqu'au bout, on lâche rien, on fait tout pour obtenir quelque chose, un résultat. Et je pense que ce soir, le point du nul est amplement mérité. Et mon troisième point, ça a rien à voir avec le match de soir, ça va être un petit coup de gueule. C'est par rapport aux 10 abrutis de la semaine dernière qui ont caillassé le but des supporters guingampais à la fin du match. Oui. Il y avait un petit contentieux entre supporters angevins et guingampais qui datait de l'année dernière quand on avait été à Guingamp où on n'avait pas pu rentrer dans le stade. Et ça, je trouve ça juste complètement minable et lamentable de faire ça. Voilà, le prochain match à Guingamp de la Ligue, je suppose qu'on sera interdit de déplacement et en championnat, ce sera pareil. Mais l'année prochaine, si on retourne à Guingamp, il y aura la même rivalité et la même volonté, peut-être, des supporters guingampais,
vouloir se venger. C'est dommage, en tout cas, de vouloir se venger et de tomber dans les mêmes travers.
Mais ça va finir par être un cercle sans fin, parce que là, clairement, je pense que c'est une vengeance de l'année dernière. L'année dernière, ils n'étaient pas venus chez nous pour le match à domicile. Et là, alors que pourtant, il y avait pourtant un assez grand nombre de CRS qui étaient là pour les protéger. Et là, c'est ridicule. C'est pas des choses que j'ai envie qu'on tienne de mon club.
Ok, écoute, c'est dit. Merci Valentin en tout cas.
Merci Valentin.
Merci beaucoup, Merci beaucoup. J'ai juste un petit message pour toi, Nico. J'ai acheté un très bon livre là récemment qui s'appelle Les enquêtes sur le racisme dans le football. Il me manque juste un petit truc sur le bouquin, c'est une petite dédicace.
Je crois que tu voulais un chèque avec, j'allais te dire non, ça va pas être possible. Mais... quand tu passes sur par Paris, tu me fais signe et ce sera avec plaisir en tout cas.
Eh ben d'accord, pas de souci.
C'est gentil, merci en tout cas, Valentin, c'est gentil.
Merci beaucoup les gars, bonne soirée, bonne continuation.
Salut, ciao Valentin, merci. Voilà, 2-2 entre Angers et Strasbourg ce soir, l'une des affiches de cette 9e journée de Ligue 1. Dans quelques instants, on évoquera la victoire d'Amiens face à Dijon 1-0, et puis le 0-0 entre Nîmes et Reims. Voilà, deux matchs un peu plus tristes également ce soir pour des équipes qui vont très certainement jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison, même si pour Amiens ça va plutôt pas mal. On vous dit à tout de suite avec Ali Benarbia et Ludovic Obraniak.
RMC Football Show. L'After Foot. Nicolas Villas.
Et accompagné de Ludovic Obraniak, Dani Benarbia, 9e journée de Ligue 1, les résultats de ce soir. On les rappelle ou pas?
Oui, c'est très important.
C'est très important. Très. Car des gens vont rejoindre très certainement
la
maintenant.
Les nationales avant.
Exactement.
Ouais. Tu lâches un petit
c'était
peu.
C'était hier le, ça plutôt.
Et alors?
Ouais, t'as raison. Bon. Lille a battu Saint-Etienne 3 buts 1 tout à l'heure. On vous attend au 32-16 pour revenir sur ce match 1 partout entre Guingamp et Montpellier. 0-0 entre Nîmes et Reims. Angers, Strasbourg, 2 buts partout et victoire 1-0 de Dijon. Arrêtons-nous sur cette victoire 1-0 des Picards face à Dijon. C'est Godos qui a marqué le seul but de ce match en fin de première période. Alors, Amiens? Bon bah qui est pas trop mal hein. Bon, ils étaient sur une victoire sur les 5 derniers matchs, ils se relancent un petit peu, ils se refont un peu la cerise les Picards. En revanche, Dijon, 6e match sans victoire, et dans cette série de 6 matchs sans victoire, il y a quand même 5 défaites. Dijon qui avait pas mal démarré la saison et qui là est en train de s'effondrer hein, quand même.
3 victoires d'affilée puis d'un coup badaboum, alors que on les voyait bien jouer, on les sentait bien, tout se passait très bien, pour te dire que ça ne veut rien dire comme une équipe qui perd 3 défaites d'affilée qui remonte bien. Donc faut attendre toujours 10 journées, on dit, mais on sent que cette équipe de Dijon trouve pas la solution, ne trouve pas les réponses. Souvent quand ça va pas, tu as plus ou moins le coach et les joueurs trouvent les réponses. J'ai pas l'impression que cette équipe, je sais pas ce qui manque, le déclic et un ressort qui va pas, et c'est toujours plus dur de confirmer. Ils avaient fait quand même une bonne saison, je trouvais, la saison dernière. Puis là, après le bon début, ben peut-être ils ont oublié un petit peu les fondamentaux. Il faudrait qu'ils se remettent à leur place où ils sont et qu'ils profitent des moindres problèmes ou des défauts de l'adversaire, beaucoup plus que dire nous, on est une équipe qui joue bien au ballon, on va dominer, on va gagner. Ben, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas évident.
Ludo?
Non, ils sont dans le dur, ouais, effectivement. Après, il n'y avait pas Tavares ce soir, qui est quand même un élément, même s'ils ont perdu avec lui les
ça fait plus de 4 matchs que d'avant. Dijon n'a pas marqué quand même, les gars. C'est vrai qu'on a souvent eu tendance à dire que c'est une équipe qui était joueuse et qui marquait beaucoup. Ils encaissent pas énormément de buts, hein, même si bon, ils avaient pris quelques petites fessées, là, ils restaient sur 2-3-0, c'est vrai. Il y a eu un 0-0 également face à Reims, mais c'est vrai que cette équipe, surtout, elle marque plus. C'est ça ce qui change beaucoup.
C'est ça, puis ramener peut-être aussi un petit peu de fraîcheur. Il a beaucoup de fois utilisé le même 11 de départ. T'as quelques joueurs qui reviennent, je pense notamment à Florent Balmont, quelqu'un qui peut apporter quelque chose de différent, notamment au niveau de l'agressivité, de la récupération du ballon. J'ai un peu trop tendance à oublier que le jeu offensif qu'ils ont pratiqué était excitant sur les premiers matchs. Aujourd'hui, il faut peut-être revenir à quelque chose de plus basique pour pouvoir se remettre dans le sens de la marche, à l'image de ce qu'on disait, à l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure pour des équipes qui justement ont le capital point et qui peuvent un peu plus se lâcher. Dijon qui est parti très fort, qui marque un peu le pas, même beaucoup le pas. Il faudrait revenir peut-être sur un système défensif un peu plus poussé. Et je pense qu'il y a des garçons qui pourraient apporter de la fraîcheur à ce niveau-là.
Dijon a 4 points d'avance hein, sur la 18e place, hein, sur Monaco pour l'instant.
On dit souvent une équipe qu'attaque, automatiquement elle se découvre et elle prend beaucoup de buts. Je suis pas spécialement d'accord. Tu peux avoir un équilibre, avoir une équipe qui a une très bonne base défensive et que c'est surtout au niveau de la récupération du ballon, c'est-à-dire que quand cette équipe, quand les quelques joueurs qui ne participent pas à l'action n'ont pas le ballon, c'est eux déjà qui doivent préparer cette récupération et non pas regarder comme s'ils étaient sur la télévision pour savoir ce qui se passe et dire c'est beau. C'est ça la force des grandes équipes, c'est-à-dire que les autres qui ne participent pas à l'action, c'est eux qui sont déjà prêts pour la récupération et bloquer l'adversaire s'il la récupère. Et c'est là la différence qu'elle se fait là. Mais je pense que quand t'es dans la situation où est Dijon, ils sont plus à se dire j'espère que ça va tourner. Et quand tu te dis j'espère qu'on va marquer ou j'espère que ça va tourner, mais en fait ça tourne pas. Et quand tu prends un but, ah ben là ça devient catastrophique. Ah non, tu cogites même pas. Tu te dis oh là là, ça va être encore galère. Et en général, quand tu penses ça, ben tu as la galère.
Non, on parlait des matchs précédents. Tu prends 3-0 contre Strasbourg. Tu prends 3-0 contre Dijon. Or, tu as fait un recrutement de dernière minute d'un type qui, ma foi, moi je le suis parce que je suis beaucoup la MLS, qui s'appelle Laurent Simon, c'est ça, Nico? Hein, je me trompe pas sur la prononciation, mais qui était surnommé le général là-haut à LA.
C'est un joueur d'expérience.
C'est un joueur d'expérience, c'est quelqu'un qui pourrait t'apporter un plus, à l'image de ce que je viens de dire sur Balmont. Je comprends pas qu'on fait pas, justement, quand t'as pris 6 buts comme ça en 2 matchs, et tu peux essayer de renouveler un peu ta défense, d'essayer de trouver d'autres formules pour pouvoir donner un peu plus de fraîcheur. Voilà, il marque le coup. Je trouve que cette équipe-là, voilà, Johan Gourcuff qui rentre en jeu, peut-être qu'il arrive aussi à un niveau où il peut maintenant prétendre à jouer peut-être une heure, à commencer le match. Voilà, il faut un peu.
Mais c'est vrai que c'est ce que tu dis est vrai. Alors quand on a vu Simon arriver, Gourcuff, même Balmont hein, d'ailleurs, et alors il a eu des problèmes de santé, c'est vrai. Mais d'ailleurs, enfin que ce soit Gourcuff d'ailleurs, Simon et Balmont, les trois d'ailleurs physiquement, ils sont pas forcément au top également. Mais c'est vrai que c'est un peu les leaders qu'on attendait du côté de Dijon également pour cette saison. Ils ont du mal finalement à assumer ce statut pour le moment.
Gourcuff leader, je pense pas, mais les aider.
Bah, au moins quand... dans le jeu,
aider quand ils en ont besoin, ça je suis d'accord. Alors que un joueur comme Balmont, s'il revient à 100%, parce que c'est pas évident, surtout à son âge. C'est quelqu'un qui peut vraiment apporter dans l'envie. L'envie est là, on a cette équipe au moment où ça va bien et au moment où ça va pas. C'est peut-être ça qu'ils ont besoin, cette équipe. Concernant Simon, je le connais un petit peu moins.
Prochain match de Dijon, ce sera contre Lille et à Monaco. Hein. Calendrier également difficile à venir pour les Dijonais. Un petit mot sur Amiens quand même également. Amiens qui compte 10 points. Alors ils reviennent d'ailleurs à hauteur au classement en termes de points des Dijonais.
Ils étaient pas bien. Hein.
Non, ils étaient pas bien. Alors c'est vrai qu'ils avaient une victoire en 5 matchs. C'était face à Rennes d'ailleurs. Eux aussi, ils ont un joli calendrier. Prochain match, ce sera à Paris. Ensuite, face au FC Nantes à venir. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup ce petit Godos là qui était en Suède. Rodos là.
Très bonne frappe. Rodos.
Très très bon petit joueur. Cette
Iranien. Très bonne frappe. Une des meilleures recrues là au niveau. Au niveau comptable, c'est quelqu'un qui est en train de montrer toute son efficacité.
Il a pas fait tout le temps jouer.
International iranien.
Ouais. Non, mais apparemment, ça se passe pas trop bien en ce moment avec l'équipe nationale d'Iran.
Mais tant mieux pour Amiens.
Tant mieux pour Amiens, ça c'est sûr. Mais alors, moi je dis souvent, tu peux avoir une bonne frappe, mais c'est la faculté de se mettre en position qui me plaît. C'est-à-dire, on te donne une passe, tu contrôles, tu cherches ou tu veux frapper. Non, c'est déjà sur son contrôle, on ressent sur son contrôle que ça y est. Il se l'amène devant, il fait les petits pas qu'il faut et alors là, ça part.
La capacité à frapper, il a une frappe un peu spéciale où lui, quand il frappe le ballon, il continue son geste. Ce qui fait que le ballon a une trajectoire un peu flottante. T'as vu comment elle part à gauche et elle repart à droite.
Et il frappe les coups francs aussi.
Un petit mot également sur Nîmes-Reims, 0-0, deux clubs qui sont promus, 7 matchs en victoire, telle est la série de ces deux équipes. Hein. Et alors là aussi, offensivement, ça va pas fort, puisque Nîmes n'a pas marqué depuis 3 matchs, Reims a marqué un but sur les 6 dernières rencontres seulement. C'est vrai que finalement, on a l'impression que les équipes qui sont en danger sont pas forcément celles qui sont d'ailleurs tout en bas de classement en Ligue 1 pour l'instant.
Et quand tu vois Nîmes, elle prend pas beaucoup de buts ces derniers temps, alors qu'elle en prenait beaucoup, mais là, elle en marque pas du tout. Donc, eux aussi, là, ils sont en train de chercher l'équilibre. Et puis, les adversaires, ils sont pas bêtes non plus. On va dire, sous prétexte qu'ils sont montés, qu'on les prenne à la légère ou pas. Mais surtout, on fait attention, on regarde un petit peu leurs points faibles. Mais je pense que notre ami Blacard doit se rendre compte que sa tactique, sa façon de jouer, ça y est, maintenant, c'est annihilé par rapport à l'adversaire. Il est temps qu'il trouve aussi autre chose et que les joueurs aussi montrent autre chose, qu'ils savent faire autre chose que ce qu'ils faisaient habituellement. La preuve, c'est que maintenant, ça y est, ils sont plus ou moins bloqués et ils ont du mal à trouver des solutions.
Ouais, moi, ce qui me frappe du côté de Reims, c'est surtout l'inefficacité offensive. C'est une équipe qui arrive justement à amener le ballon dans la surface de réparation assez facilement. Encore ce soir,
on parlait de Nantes,
Chavaria
qui a eu ce même problème,
qui manque le coche à plusieurs reprises sur ce match. Et voilà, c'est une équipe qui soit n'a pas de chance, ou c'est la faute à pas de chance, ou alors c'est un manque d'adresse. Il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là.
Supporter de Saint-Etienne, supporter de Lille, on vous attend au 32-16 dans quelques instants pour évoquer l'affiche de cet après-midi, la victoire 3-1 du LOSC. Quelques petites infos du jour avant cela. Demain, il y a Monaco-Rennes, ce sera à 17h. Alors vous savez que les deux équipes sont pas au mieux. Hein. Monaco qui est 18e, Rennes qui est 16e. Sabri Lamouchi et Jardine qui sont pas au mieux non plus du coup. L'entraîneur du Stade Rennais se sent-il fragilisé? Sa réponse aujourd'hui en conférence de presse.
Oui. Agiliser,
la question n'est pas là. Mais le sujet n'est pas de savoir si un tel ou un tel est fragilisé. Vous savez bien mieux que moi comment les choses se passent et se passeraient. Toutefois, moi je veux insister sur le plaisir que j'ai à travailler avec ce groupe. Ça fait aussi partie du métier de trouver des solutions quand les choses ne vont pas. Et on peut dire qu'aujourd'hui les choses ne vont pas.
Voilà, il est lucide et on le sent quand même affecté, hein, Sabri Lamouchi, hein, par la situation.
Pas affecté, mais réaliste. Réaliste dans le sens où, avec la fin de saison qu'a fait cette équipe de Rennes, plus la qualification Europa League, on s'attendait à quelque chose de mieux avec le recrutement. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire que si tu recrutes bien, automatiquement, c'est mieux. La preuve en est, c'est que là, ils sont dans une position qui est pas très bonne. Ils ont en plus cette Europa League qui est difficile à digérer, on le sait, le fameux match du jeudi dimanche.
Alors, ils sont à 10 km en plus.
Et puis là, je peux te dire, c'est pas du jet lag.
Ils viennent d'Astana, hein, où ils ont pas 15 euros d'ailleurs. Ah, t'es inquiet, toi, ou pas plus que ça pour le Stade Rennais, pour Sabri Lamouchi, Ludo?
Pour lui, je sais pas, ça va dépendre des prochains résultats. On sait qu'aujourd'hui, les entraîneurs, ils ont une durée de vie qui est de plus en plus limitée. Donc, au vu du recrutement, je pense que les dirigeants sont en droit d'attendre un autre niveau de résultat en ce début de saison. Or, t'as pris des joueurs sur le tard, comme beaucoup d'équipes finalement. Tu t'es renforcé beaucoup sur le plan offensif. Et sur le plan défensif, ça patauge un peu plus. Alors qu'une équipe, elle se construit aussi dans l'homogénéité. Tu peux pas prendre que des joueurs qui vont essayer de t'apporter une plus-value offensive. Il y a aussi l'équilibre défensif. Et ces équipes-là, elles sont trop souvent désorganisées. Il y a trop souvent un décalage entre la qualité offensive et la qualité défensive. Or, quand je vois jouer Rennes, voilà, ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, les joueurs que t'as pris, ils arrivent pas à faire la différence offensivement. Et que défensivement, tu sais pas assurer le coup.
Ce sera demain ce match entre Monaco et Rennes, match à 17h. Je vous rappelle les résultats de ce soir: Amiens battu Dijon 1-0, 2-2 entre Angers et Strasbourg, Nîmes Reims 0-0, Guingamp Montpellier un but partout, et Lille a battu Saint-Etienne 3-1. Supporters du LOSC, supporters des Verts, on vous attend au 32-16 avec Ludovic Obraniak et avec Ali Benarbia pour analyser cette victoire des Dogs 3-1 cet après-midi. À tout de suite.
RMC Football Show, l'After Foot.